Chapitre 2. Il retrouva Germaine au rendez-vous qu'elle avait été sur le point de manquer. Ce monsieur, mélancolique et solennel, l'intimidait. Ce qui la décida, ce fut la joie de se montrer à lui sur son 31 avec un chapeau neuf et de frais souliers. Il lui prit le bras. « Vous n'avez pas peur ? » demanda-t-elle. « Peur ? » Oui, de vous compromettre. Si votre dame nous voyait. Ah, et si quelqu'un de vos connaissances passait par ici et allait lui raconter. Oh, ce que j'en dis, c'est dans votre intérêt. Vous me prenez le bras comme si vous étiez garçon. Au fond, j'étais sûr que vous ne viendriez pas. Ah, c'est donc que vous avez l'intention de ne pas venir. Elle hésita un instant, répondit. « Oui, je suis bête et ignorante. Il vaut mieux me laisser où je suis. Mais hier, pourtant, j'ai parlé à ma sœur. Elle ne trouverait rien à redire si vous n'étiez pas mariée. Elle croit que ça ne me portera pas bonheur. » Pourtant, elle se serrait contre lui. Ils déjeunèrent à Montmartre. Puis il la conduisit devant une petite maison qui paraissait déserte, les volets clos. Il lui expliqua qu'il l'avait habité jadis cette petite maison et qu'il en était propriétaire. En l'arrangeant, elle serait très agréable pour nous. Une bicoque à deux étages, flanquée d'un bout de jardin, qui ravit Germaine. Ce bois sec était un lilas qui avait la charité de refleurir un peu chaque printemps. On planterait des fleurs. Ils entrèrent. Quelques meubles dont Nicole n'avait pas voulu moisir c'est dans l'ombre. Ferait repeinturer les murs, les volets. Germaine voyait en bas une pièce modeste, rouge vif et bien crue. En haut, la chambre à coucher tendue de toile bleue. Un vrai palais. « Les poêles, affirma Benoît, fonctionnent à merveille. » Il pensait à Nicole disposant leur appartement. Germaine avait les mêmes gestes graves, le menton dans la main, pour combiner des coloris, calculer la place des meubles. « Combien faudra-t-il de temps ?»« Oh, dans un mois, inauguration !» La nuit s'épaississait, ils sortirent. « Alors, murmura-t-il, je vous reverrai dans un mois ?» Elle rougit. Il croyait donc qu'elle était intéressée. Oh, certes, elle eût préféré pour cadre de leur amour cette jolie maison, mais elle le sentait impatient jusqu'à la souffrance. Elle n'avait plus de volonté. « C'est petit, remarqua-t-elle, mais c'est tout de même un hôtel particulier. Mademoiselle Germaine Bille en son hôtel. » Le lendemain, elle fut à lui. Germaine ne lui avait pas menti. Une vierge. Il dut la consoler, la bercer. Jamais il ne la laisserait, quoi qu'il advînt. Il faillit préciser, « Même si tu manquais au serment de fidélité que tu viens de me faire, pour bien la rassurer. » Convaincue, elle sécha les larmes et devint gaie. « Mais ce que je vais être seule maintenant, je viendrai tous les jours. »« Il travaille. Oh, je m'en fiche. Et il y a toi. » Pourquoi douter de la sincérité de cette créature si franche, si spontanée? Toutes les femmes ne sont pas des comédiennes. Un snob, Germaine, lui parut vulgaire. Il se sentait du peuple, lui aussi. Il avait de larges mains, un cœur simple, le dédain du luxe et des complications. « Eh bien, je t'adopte. »« Ça, c'est gentil. » L'autre disait, « Je suis ta petite fille. » Et seulement il comprit qu'il venait de rendre trahison pour trahison et que sa vengeance était parachevée. Il en conçut une tristesse. 15 jours plus tard, la maison était prête. Sous prétexte d'un voyage, Benoît s'y enferma pendant quelques jours avec sa maîtresse. Germaine vivait une féerie. Elle apporta bien quelques faux taxes et quelques plantes artificielles d'un goût horrible, mais il revient plus tard en son éducation artistique. Elle lui plaisait ainsi, naïve et naturelle. Le matin, elle le réveillait en chantant, et elle s'intéressait aux voisins. Un vieux sculpteur qui faisait lui-même son marché et qui recevait des modèles que l'on voyait enveloppés négligemment dans un châle, fumer des cigarettes à la fenêtre. Une dame en noir, très comme il faut, un peu folle, et qui passait les journées à relire de vieilles lettres. La femme de ménage était son amie. Comme elle habitait en face, elle venait lui tenir compagnie quand Benoît était absent. Germaine ne vivait que pour Benoît. Elle l'étourdissait de sa joie et de ses baisers reconnaissants. Cet amour la grisait comme un vin léger. Toute séparation serait pour lui un déchirement. Et peu à peu, il fit apporter dans la bicoque des vases précieux, des tableaux modernes, dont la petite disait « Oh, puisque tu es sûr que c'est beau !» Il voulut qu'elle fût bien habillée. Il lui acheta des bijoux, des fourrures et transforma inconsciemment cette grisette en cocotte. Il s'agissait pour elle comme il avait agi pour Nicole, sans se douter qu'un manteau de vison doit être montré ailleurs qu'à Montmartre, dans une ruelle au pavé pointu, plus cruels encore pour de tendres souliers. Il monnayait son bonheur en présent, surpris qu'une belle robe ne donnât point le goût de bonne lecture et qu'un parfum choisi n'inspirât point l'amour de la musique sérieuse. Bientôt, il travaillait là, dans une petite pièce sommairement meublée et qu'il préférait à son cabinet. Germaine, près de lui, se tirait les cartes ou se polissait les ongles. Elle ne touchait jamais une aiguille. « Ne plus coudre, c'est mon avancement, » affirmait-elle. Et elle ajoutait « Tu ne m'en veux pas ?» Craignant que la féerie ne s'évanouît tout d'un coup. Dans les cauchemars affreux, elle se représentait une dame descendant de voiture devant la maison, s'y introduisant au nom de la loi, et la renvoyant après l'avoir dépouillée. « Je suis Madame Ezole et je vous chasse. » Nicole la préoccupait beaucoup. Elle la vit, la jugea splendide, et Benoît y gagna de connaître pour la première fois la jalousie d'un être aimé. Il lui affirma avec tant de véhémence qu'il n'y avait plus rien entre sa femme et lui, qu'elle finit par le croire et jugea qu'elle est sans doute enchantée qu'il la trompe. Le fait qu'il n'est pas mal, mais il lui manque je ne sais quoi. Elle le pria de se faire couper les cheveux, la barbe et la moustache. Tu verras, mon trésor, tu auras l'air d'un empereur romain. Il arriva, glabre et les cheveux ras. Il faut le temps de s'y habituer, déclara Germaine. Il n'avait rien d'un empereur. Mais non, mais je me suis trompé. Allez, reste repousser tout ça. Il obéit. D'ailleurs, Nicole, ahurie de ce caprice, le criblait de ses sarcasmes. Un curé en civil, voilà quoi tu as l'air, t'es affreux. Il souriait. Si elle avait su. Mais elle ne s'occupait guère de son mari. Elle connaissait une gloire incomparable, l'intimité des stibiers, mâles et femelles. Ils avaient consenti à inviter cette petite bourgeoise sur les supplications de Robert. Et par un prodige miraculeux, Nicole plut à la femme et au mari. On félicita Robert Fournier, qui confia à ses amis « Ouais, vous pouvez l'inviter seul, Le mari se coucha à 9 heures. C'est un ours. Il suffisait que l'on pût présenter Madame Benoît Maisol, femme du grand historien, et Nicole pensait. Divorcé, on ne me recevrait plus. Je l'échappais belle. Ainsi Nicole, dans les salons d'Estibier, et Benoît, dans la petite maison de Montmartre, se trouvaient heureux, chacun de son côté. Ils ne se rencontraient plus que dans des courants d'air. Pourtant, Nicole eut la grippe, et Benoît tint à soigner sa femme lui-même. Il attrapa la grippe à son tour. Nicole voulut rester à son chevet, mais il l'en dissuada. 10 fois par jour, il appelait Germaine au téléphone. « Viens, priait-il. Si l'on me pose une question à ton sujet, je raconterai que tu es la secrétaire d'un membre de l'Institut et que tu m'apportes des documents. » Elle refusa. « Mais tu es fou, c'est absolument impossible. » D'ailleurs, Madame Maisol ne devait pas tarder à reprendre sa place de garde-malade. Madame Orteval, qui était pour les convenances, lui avait dit « Vous venez prendre le thé chez moi, ma chère. C'est donc que votre mari est guéri, tant mieux. Un homme de cette valeur. » L'homme de cette valeur avait 40 degrés de fièvre. Nicole, rappelée au devoir, assassina son époux de drogue et de prévenance. Il se rétablit tout de même. Et sa première sortie fut pour Germaine. Comme il traversait le stadio bleu et rouge du rez-de-chaussée, une dame maigre à pince-nez vint à sa rencontre. « Je suis Madeleine, Madame Lefierderland, la sœur de Germaine. »« Elle est malade ?»« Non, non, elle n'était pas malade. Il la verrait tout à l'heure. » Madame Lefierderland tenait à avoir avec lui une conversation sérieuse au nom de la famille. Elle le prévenait. Il trouverait Germaine bouleversée. Il fallait un motif grave pour qu'elle, la sœur, se prêtât à une entrevue semblable. « Mais au nom du ciel, madame, qu'y a-t-il ? » interrompit Benoît. « Monsieur, vous devez bien vous en douter. Germaine craint d'être enceinte. » D'un geste, il l'écarte et bondit. Germaine maussade rêve sur un canapé comme si déjà elle était forcée de rester étendue. Il l'étreint. « Ma chérie, je suis heureux. »« Ah, tu es heureux. Mais pense donc à un enfant de nous. »« Je suis contente que ça te fasse plaisir. »« Et toi, mon amour ?»« Moi, j'aurai toute la responsabilité. » « Mais non !» Il la rassura. Il serait à elle plus que jamais, rivé par le seul lien qui compta. Oh, il n'aurait même pas osé espérer une joie pareille. Il en étouffait. C'était là le but de sa vie. Et il pleurait, il riait, il la couvrait de baisers. « Tout de même, conclut-elle, les femmes sont à plaindre. » Il l'agaçait avec ses larmes, ses bégaiements, son enthousiasme. Elle lui jeta. Oh, bien sûr, tu ne risques rien, toi. Ce n'était plus le trottin de leur première rencontre. La sœur avait passé par là. Tire au moins de la situation tout le bénéfice possible. Et le beau-frère avait dû appuyer de toute son autorité d'homme marié, régulier, sans reproche. D'ailleurs, excédé, Germaine rappela Madame Lefierderland. « Il ne faut pas que ma sœur et votre enfant soient des parias, » dit Madeleine. « Oh, soyez tranquille, je connais mon devoir. Mais ton devoir, » intervint Germaine, « était de me laisser là où j'étais. » Et la sœur insinua. « Oh, mais si vous étiez son mari, ça changerait, mais vous ne vous rendez pas compte de la situation, monsieur Maisol. Quant à toi, Germaine, ne reviens pas sur le passé. Ça met de l'aigreur et c'est inutile. Tout s'arrangera, ne te mets pas dans tous tes états. Allez, embrassez-le, embrassez-la. Elle accompagna Benoît. Que voulez-vous? Elle est jeune et sa carrière est, comme qui dirait, brisée. Soyez tranquille, je la quitterai le moins possible. Mais c'est à vous de réfléchir et de réparer le mal. Un enfant, il serait père. Oh, qu'importait l'accueil de Germaine et cette rancune qu'il avait glacée. Il aurait un enfant. Or, il ne pouvait plus le retenir maintenant. Il divorcerait et irait très loin, en Algérie ou au Maroc, fonder une famille. Il s'enferma pour faire le compte de sa fortune. Les chiffres lui apportèrent une déception. L'existence de Nicole serait assurée, mais chichement. Oh, puis quoi, elle ne méritait pas davantage. Elle lui avait tout refusé, même cet orgueil paternel dont il débordait. Nicole serait à Robert Fournier ou à un autre. Un rude moment à passer, mais il était juste que la coupable fût sacrifiée. À certaines minutes, la bonté même exige que l'on soit inflexible. Mais quoi qu'il fît, il pensait à Nicole, si faible, si puérile. Ah, le cœur de Benoît, ce cœur d'homme resté enfant, cœur sensible, et qui pouvait loger à la fois toutes les tendresses, toutes les pitiés, dans des farentes contradictions. Nicole seule, enfin de ce dandy, plus frivole et plus indécis qu'une femme, il s'efforçait d'évoquer le petit berceau là-bas, Germaine délivrée, radieuse. Sa pensée revenait stupidement à l'épouse adultère, forcé de reprendre le nom paternel, un nom taré, dépouillé et puni. Comme si j'avais le droit de punir. Mais ce sont les circonstances, la fatalité. Oh, sa décision était prise. Il irait chez Robert Fournier et lui dirait « Oh, je sais, je ne viens pas vous accabler. Essayez de vous racheter en assurant à Nicole un avenir digne et paisible. » Et la vie reprendrait après ce coup de hache nécessaire. La porte de Fournier était ouverte. Au milieu de l'unique pièce, le Tussec, ami de Robert, et un tapissier procèdent à l'inventaire du mobilier. « Quelle histoire !» s'écria le Tussec, en serrant à la hâte la main de Benoît. « Fournier ? Vous n'êtes pas au courant ?»« Non, mais il est parti, mon cher, parti depuis 48 heures. »« Pour longtemps ? Mais pour toujours ?»« Comment, pour toujours et sans prévenir personne ?»« Fauché ! Il fiche son petit cas à l'anglaise. » « Je l'avais répété 100 fois. Si tu t'entêtes à jouer, fais au moins partie d'un cercle convenable. Non, il fréquentait un tripot infect où il a été ratissé par une bande noire. Un Parisien, et qui avait perdu tous ses cheveux à la bataille. Un soi-disant malin, pourtant se ruiner au bonneteau. Bien entendu, il a commencé à s'émouvoir quand il lui est resté 50 louis. Alors il a été épatant. Il a demandé une place à Jules Stibier. La gueule de Stibier, quand on lui demande une place, vous l'imaginez. Pour Jules, M. Ruinet doit s'expatrier. Cela fait partie des enseignements que lui ont laissés ses aïeux, des gars boucanés. Remarquez qu'il pouvait lui confier un carnet, comme il dit, et lui faire gagner 60 000 francs par an à la bourse. Mais non, ce sont des situations que l'on offre à ceux qui n'en ont pas besoin. Jules a dû consulter Elisabeth, qui n'a pas été fâchée, c'est-à-dire, enfin, bref, ils ont trouvé pour notre ami une gérance. Tenez-vous bien, au Nicaragua. Eh bien, Robert a accepté tout de suite, sans même savoir où cela pouvait bien nicher, le Nicaragua. Nous avons cherché ensemble dans le dictionnaire, En Amérique centrale, mon cher. J'ai réglé ses affaires, je rachète son mobilier pour payer quelques dettes courantes et je prends le rez-de-chaussée. Pas un mot à Madame Letussac, n'est-ce pas? Ce que j'en ai vu de ses liquidations. Ben, celle-ci a de l'allure. Je trouve ça élégant, ce départ brusque. Élégant, comme un suicide chic. Je suis chargé de brûler sa correspondance sans la lui transmettre. Il m'a embrassé. Mon vieux Tusso, c'est Paris que je l'embrasse. Adieu Paris. Ça m'a fichu une secousse. Je lui ai proposé 30 louis par mois chez mon beau-père, qui est chameau comme pas un, et qui aurait été ravi d'humilier un masseur ruiné. Il a refusé. Un homme découragé. Tenez, à 9 h du soir avant-hier, il portait encore un faux col mou. Lui, le temps d'emplir une main, et hop, il a l'intention de travailler, en rigolant. Nous verrons ce que ça donnera. Tout en bavardant, il raflait en hâte des paperasses qui traînaient. Il est au courant, pensa Benoît. Et comme la sonnerie du téléphone retentissait, on décrochait, ordonna le Tussec au tapissier. Elles sont embêtantes à la fin. Nicole arrivait en général la première rue de Navarin. Le pas de son amant était délicieux à entendre, un pas vif et léger qui était le premier ravissement de l'amoureuse. Par prudence, ils ne se rencontraient que dans cet hôtel où ils gardaient une chambre au mois, les pyjamas dans l'armoire à glace avec des bouteilles de vin d'Espagne et des caisses de gâteaux secs. Elle n'avait pas voulu qu'il améliorât ce décor. Ainsi, elle se persuadait chaque fois qu'il s'agissait d'une entrevue sans lendemain et cela rompait ce qu'une liaison aussi assidue pouvait avoir de monotone. Ils oubliaient parfois de s'aimer en parlant de ce qui les intéressait, des projets de la semaine, de Jules Stibier et de Madame Herteval. Quand Nicole arrivait en retard, elle trouvait Robert endormi. Il avait la manie de traîner le soir au cercle. Elle haussait les épaules devant sa fatigue. Elle ne s'endormait pas, en mettant à son amour la rage froide d'une vengeance. Ce qu'elle en faisait, c'était contre Benoît surtout, avec ce sens singulier de l'harmonie qu'ont les filles offrant pour rien au premier venu la beauté qu'un autre paie cher. Parfois elle souriait en pensant à la tête de Benoît. S'il les voyait ainsi, vautrés sur un lit, dans des costumes d'une élégance vaudevillesque, lui vêtu de soie feuille morte, elle de satin crème à grosses fleurs dorées. Et elle revêtit donc, se déshabiller de théâtre, dénoua ses cheveux, se jeta sur le lit, et prit au hasard un tome des Mémoires de Casanova, qui constituait leur bibliothèque, avec un volume des Scénettes de Vercoursin, laissé là par un précédent locataire. Un verre de Malaga, une cigarette. Mais après 1 heure d'attente vaine, elle se leva. Le goût âcre d'une catastrophe lui venait à la bouche. Jamais il n'avait eu un tel retard. Elle s'assit à califourchon sur une chaise, derrière les rideaux, observa la rue. Un taxi arriverait à fond de train. Robert obtenait des chauffeurs le maximum de vitesse. Il choisissait les voitures bien tenues et triomphait quand il en trouvait de neuves qui faisaient illusion. Bah, elle ne le gronderait point. Il arrivait souvent d'attendre la livraison d'un costume nouveau ou d'un chapeau ou d'une canne pour lui montrer cette merveille. Il méditait justement un complet vert bronze d'une étoffe inédite qu'il devait recevoir de Londres. Quelle coquetterie! Elle bâilla, s'étira, se regarda dans l'armoire à glace et se trouva jolie, fine, longue, d'une blondeur chaude et profonde, encore adolescente en somme, par la grâce exquise du cou, la gracilité de la poitrine, la lumière des yeux. Ses mains étaient exquises, irréelles, aux doigts pointus, aux ongles étincelants et d'une blancheur soyeuse, mains de paresse et de mensonge qui se livraient aux baisers des indifférents avec une mollesse prostituée. Telle qu'elle, Nicole se jugea digne de retenir Robert, qui avait eu les plus retentissantes aventures. Lasse de se contempler, elle revint aux mémoires de Casanova, jeta le livre et piaffa de colère jusqu'à 5 heures. Alors elle se rendit dans un bureau de poste et téléphona en changeant sa voix chez Robert où M. Le Tussec lui apprit le départ de l'ingrat. Affolée, elle courut vers la subdiée où elle trouva Elisabeth rayonnante. Il y avait, dans la petite pièce où il recevait des visiteurs négligeables, 2 visiteuses couvertes de crêpes et qui parlaient de choses vaines en gémissant. Madame Stibier affecta de s'intéresser aux travaux de Mézôle, à sa santé. Et Jules, après quelques minutes, reconduisit Nicole. « Alors, » fit-elle. Il répondit, « Bah, au bout du fossé, et là qu'il bute. » « Et pourquoi est-il parti ? Ah, plus le sou. Il avait des amis qui ne pouvaient lui constituer une rente. Question de dignité de sa part, question de principe de la nôtre. Il faut le laisser se refaire. L'honneur fournit le moyen. Mais où est-il ? Oh, il vous écrira dès qu'il sera arrivé. Un bon conseil, cher ami, encouragez-le. Que M. Mézôle lui aussi l'encourage. Il sait ce qu'elle travaille, lui, M. Mézôle. Où trouver un appui ? Chez Mme Orteval. Celle-là était seule, et comme elle s'ennuyait, elle accueillit avec reconnaissance le roman vécu qui se présentait. Ah, ma petite, croyez-vous ? Je devine aller, je suis femme, vous pouvez vous fier à moi. Nicole s'épancha. Quand elle eut fini, Madame Orteval, satisfaite, n'émit que quelques vagues lieux communs et redevint austère. Chère madame, distrayez-vous. Tenez, occupez-vous de votre maison, changez les meubles de place, courez les antiquaires. Mais bon souvenir à votre mari. Chez elle, Nicole trouva son père qui avait besoin de 63 louis. L'hébétude de sa fille le frappa. Ben, je présenterai des observations à Benoît, indiqua-t-il. J'entends qu'il ne te fracasse point. Ah, vous avez encore eu une scène. Mon Dieu, papa, est-ce que tu peux être bête quelquefois? Alors, si ce n'est pas cela, au cas où tu aurais à me charger d'une commission, je suis là. Elle fouillait dans son secrétaire, comptait des billets de banque. Il reprit. Ah, à propos, il paraît que Fournier, il va vendre des choses en Amérique. Ah, ils sont rares ceux qui résistent comme moi. Le tempérament. Il restait sans un, comme on dit, et ensuite. On s'arrange. Oh, je trouve là encore une égoïste de la part de ton mari, car il aurait pu l'aider, quand même un intime. Papa, oui, je te porte sur les nerfs. Bon, je me tais. C'est entendu, je suis bête. Mais sais-tu pourquoi? C'est parce que je n'ai pas le sou. Quand j'ai de l'argent sur moi, je deviens intelligent. Allez, passe-moi ces papiers, fillette, et inscris. Inscris, je l'exige. Dès que tu inscris, ce n'est plus un tapage, c'est un emprunt. Je pars tranquille. Mais tu as une mine. Mais tu as un tuyau d'homme sentimental. Bécasse à l'Armagnac, Chambertin 1878. Alors, crois en ton vieux père, qui n'est pas indiscret, mais qui a de l'expérience. Et je mets les voiles maintenant, tant pas à rencontrer l'archiviste. Il disparut, remplacé par un Benoît, dont elle jugea la gaieté inconvenante. Et Nicole souffrit alors, comme elle avait vu souffrir qu'au théâtre. L'allégresse de son mari la souffletait. Pourtant, elle passa la soirée avec lui. Elle avait peur de ce chagrin naissant qui se gonflait en elle à l'étouffer. À 7 heures, Robert ruiné voyageait seul et qui sait, en 3e classe, face à face avec ses pensées lugubres. Il ouvrait un portefeuille pour contempler un portrait qu'il avait d'elle dans une poche secrète. « À propos, » commença Benoît. « Oui, à propos, Robert Fournier, n'est-ce pas ?»«
Quoi, tu ?»«
Oh, je m'en moque, ne m'exercère pas avec tes doléances. Tu le détestais. Si tu ne l'avais pas détesté, il se serait adressé à toi. Eh bien, n'en parlons plus. »«
Bon, je ne l'aimais ni le détestais. Je ne lui attribuais qu'une existence hypothétique. Il buvait, il mangeait, il ne disait rien, en beaucoup de paroles. »
« Cela n'empêche pas d'être malheureux ?»«
Sans doute, et je le plains, mais ne m'en demande pas davantage. »
Elle ouvrit la bouche pour protester et se ravisa. Puis elle alla au piano, qu'elle n'ouvrait pas 2 fois par an, et joua une sonate mélancolique qui lui arracha des larmes. Elle finit par sangloter dans son mouchoir, balbutiant « J'ai de la peine !» Je m'étais habitué à la présence de Robert. C'était un ami, un imbécile peut-être, mais il comprenait toutes mes petites bêtises de femme. C'était plus une amie qu'un ami. Et l'idée qu'il est si pauvre, qu'il va être forcé de travailler. Demain, je n'y penserai plus, mais aujourd'hui, j'ai de la peine, Benoît, j'ai de la peine.
Il la préférait ainsi. Il lui dit, « Mais je te reste, moi. »
Mais toi, c'est pas la même chose. Toi, tu es tout, ne va pas comparer. Et puis vois-tu, j'ai trouvé l'estibier, Madame Herteval, si dur pour lui. Oh, il faut pas tomber, personne ne vous ramasse.
Elle fit un effort, se leva, sourit et lui prit la main, s'efforçant de la porter à ses lèvres pour le remercier de cette phrase.
« Je te reste. » Il résista et elle se contenta de lui presser la main. « Tu m'en veux pas ?»«
De quoi ?»«
De cette crise de larmes. » »« Aussi, il fait un temps épouvantable. L'orage pèse. Tu sais dans quel état cela me met. »
Il n'y avait pas un nuage au ciel, mais Benoît approuva.
« En effet, oui. Couche-toi et tâche de dormir. Il fera beau demain. »
Elle se calfeutra, prétextant des migraines tenaces. Et Benoît passa le plus clair de son temps dans la petite maison de Montmartre, à Chapitré-Vermaine, qui ne se gênait plus, vivait en peignoir douteux et se lamentait sur sa destinée. Quoi ? Il avait fait d'elle une femme entretenue, puis une fille mère. Et elle devenait vulgaire. Lançait comme à plaisir des « sais-tu-moi » des « à la gare ». Oh, il ne s'agissait plus d'amour, hélas. Benoît prenait la figure d'un criminel repentant devant le sévère pince-nez de la sœur et la maussaderie têtue de la petite.
« Elle vous a pris en grippe, cela arrive dans ce cas-là, mais cela se passe toujours après », affirmait Madame Le Filmont.
Il lui recommandait de bien soigner Germaine. Un jour, elle avait dansé, un autre jour, elle avait abattu à pied 15 kilomètres. Malgré tout, il l'entourait de prévenances dévotes, satisfaisant ses plus sots caprices, content de rester là, muet, songeant au divin mystère qu'elle portait. Si maladroitement, il se sentait père déjà. « T'as la vocation, » raillait Germaine, qui le roudoyait, le renvoyait, sous prétexte qu'il l'énervait, se dérobait aux plus humbles caresses. Elle avait fait un chemin plus rapide que Nicole, qui gardait dans ses pires exaspérations une sorte de retenue. Un dimanche, il fut chassé par une compagnie que Germaine avait conviée, de tout jeunes hommes à allure de danseurs professionnels et leurs petites amies. Ce monde devait déjeuner et dîner là. Mais Aul s'en fut, désemparé, triste à mourir. Il fut frappé, en rentrant, par l'expression du visage de Nicole, une Nicole hagarde, qui s'efforçait encore de sourire avec la grimace qu'il lui avait vue quand elle s'était crue prise sur le fait. « Je ne me sens pas bien, » expliqua-t-elle. « Sais-tu ce que tu ferais si tu étais gentil ? Nous boucherions nos valises et nous irions passer 3 jours. Toi, je ne suis pas bien en guerre exigeante. 3 ou 4 jours à Verfouille, comme des tourtereaux. Nous n'y sommes jamais retournés. Un pèlerinage, ça nous rajeunira. J'ai téléphoné, nous n'avons qu'à arriver. Le patron nous attend. Tu te souviens, le patron, le bois de Verfouille ? Il objecta des travaux, mais elle insista de telle sorte qu'il fléchit. Fuir Paris, surtout, elle en avait un tel besoin. Sinon, elle tomberait gravement malade. Il pensa que cette séparation, sans un mot de lui, serait excellente pour Germaine. Et il consentit. « Bon, bien, nous prendrons le train à midi. » Il était persuadé que, Fournier parti, Nicole tentait un effort touchant pour se dégager du cruel souvenir, pour se rapprocher de son mari. Mais pourquoi cette épouvante? Pourquoi, en mettant du linge dans sa valise, elle tremblait? Je suis si contente de revoir Verfouille, pas toi? Si. Ils y avaient fait leur voyage de noces. Quel souvenir allait-elle chercher là-bas? Cela avait été si misérable. Une semaine au bout de laquelle, désespérée, elle avait demandé de rentrer à Paris, de fuir cette solitude, l'intimité nocturne, les promenades mélancoliques dans une campagne d'automne humide, rouillée et pénétrée de mort. Le même train, Benoît. Le même. Et comme jadis, ils étaient seuls. Il ne lui demandait plus ses lèvres. Il restait en face d'elle, si loin d'elle. « Je te dérange, tu vas peut-être à travailler. Tu es bon, je te remercie. Va, il y a des moments où je me demande si je ne te rends pas malheureux. » Elle reprit, en essayant de plaisanter, « Peux-tu seulement être malheureux ?» Il répondit, mais non, non, je ne suis pas romantique. Je ne recherche jamais la douleur. Tu es dans la vérité. Il la sentait fiévreuse, inquiète, et s'imagina qu'elle nourrissait des projets de suicide. La vie, dit-il, est une succession de ridicules petits combats, jusqu'à cette paix qui vient de l'épuisement, et qu'il faut bien accueillir tout de même comme une paix. À l'auberge, il ne restait plus qu'une chambre avec un grand lit. Du regard, Benoît interrogea Nicole, qui émit vivement « Oh, c'est parfait !»« D'ailleurs, déclara le patron, madame m'avait téléphoné, n'est-ce pas ?»« Ah oui, oui, vous nous reconnaissez. Nous sommes venus ici pour notre voyage de noces. » Au dîner, ils furent seuls avec un peintre chenu, dernier représentant des amis de Verfouille, paysagiste désuet, qui cherchait dans ce lieu illustre une ombre de gloire. La soirée était assez douce. Nicole et Benoît allèrent jusqu'à la forêt. Ils s'arrêtèrent devant le chêne contre lequel jadis Nicole s'était accotée en pleurant. « Et pourquoi pleurais-tu » interrogea-t-il. « Oh, tu me disais des choses si belles. Je me sentais si insignifiante. » Je te disais que je t'aimais. Et tu ne le dis plus ? Elle coupa sa réponse. Quand on pense que l'on pourrait mourir, pas fâché, si tu veux, mais désuni, je te demande pardon, je ne suis pas bien gai. La campagne, la nuit, l'automne, tu devrais acheter un petit coin par ici. Tu
Tu travaillerais tranquillement. Moi, je soignerais des bêtes. J'aurais des roses. Mais tu ne m'aimes plus assez. À Paris, c'est un tel tourbillon. L'amour à Paris. Une plante artificielle qui se couvre de poussière. Je veux t'expliquer, Benoît. J'ai un peu honte. Tiens, tu vois, à Paris, jamais je n'oserais. Même si l'on est seuls tous les deux, je m'imagine qu'il y a des gens pour écouter. On devient absurde. Il faut tout ce silence et tout ce ciel. Oh, j'ai été si mal élevé. Je n'ai pas connu ma mère, alors on garde toujours quelque chose de brutal, de masculin. Toi, tu as été élevé par ta mère surtout. Et de nous deux, c'est toi le plus tendre, le plus sensible. Je m'en rends compte. Va, même quand je suis mauvaise. Avec papa, il fallait tout cacher. Il se moquait. La vraie Nicole, il l'ignore. Et toi aussi. Ainsi, il y a 3 ans. Je t'ai adoré, et je n'en avais pas l'air. Adoré. Il songeait. Je ne l'ai plus persécutée, alors elle me revient. L'éternelle histoire. Et il est trop tard, pauvre femme. Elle lui prit le bras. Et puis ses verbes au passé. Je t'ai adoré, mais c'est lugubre. Un passé qui n'a pas 4 ans. Je t'adorais, oui, monsieur, malgré mes rebuffades et mes bouderies. Maintenant, elle balança un instant, puis... Mais maintenant, je t'aime, conclut-elle. Cette phrase sonna si faux que Benoît jugea tout de suite, elle ment. Et pourquoi mentait-elle? Qu'avait-elle à redouter? Il ne devait pas tarder à le savoir. Quand ils furent arrivés dans leur chambre, il la vit livide sous son phare avec quelque chose d'égaré dans les yeux, quelque chose qu'il avait lu dans les yeux de Germaine. L'effroi de la maternité. Nous allons coucher ensemble, cher monsieur, mais je vous préviens, tant pis, j'ai bu un peu trop de Vouvray mousseux au dîner, et je suis pompette. Benoît, ta femme est pompette, mon chéri. Ta femme est amoureuse de toi ce soir. Je suis dans mon droit, conféré par monsieur le curé, par monsieur le maire. Je n'ai pas eu une bonne idée de te ramener ici. Nous devenions vieux époux. Monsieur et madame Denis, oh, pas de ça, Lisette. Je n'entends pas que tu m'échappes, que tu lèves un beau jour le nez de tes bouquins pour t'amouracher d'une sale femme. Je suis jalouse, tu sais. Mais comme celles qui sont vraiment jalouses, jusqu'au crime, où je n'en laisse rien voir. Benoît, j'ai du chagrin. Dis que tu m'aimes. Tu me trouves donc plus belle. Je suis plus ton chef-d'œuvre. Dis, je ne suis plus belle. Dis, ta petite fille, mon chéri. Elle essayait encore de rire, et c'était atroce, cette lugubre parodie de femme amoureuse. Qu'étant une caresse, cette abjecte mendicité. Enceinte de son amant, abandonnée par lui, elle jouait son va-tout. Si Benoît la repoussait, elle allait à la porteuse. Et elle tentait de changer son désespoir en minauderie, sa terreur en séduction. La dernière victoire à remporter, elle se représentait grosse, renvoyée par Benoît, mourant de faim dans une mansarde en face d'un berceau sordide. Et elle tendait une bouche tremblante, se collait contre lui de tout son corps, tentait de le griser de son odeur, de mots impudiques, d'éveiller en lui le désir qui la sauverait. Dis que tu m'aimes encore un peu, dis, je suis folle, Benoît, dis que tu m'aimes. Glacée et bouleversée, Maisot évoquait ce mot du grand seigneur d'autrefois qui couchait philosophiquement une fois par mois avec sa volage épouse et plaisantait ensuite « Me voilà net, arrive qui plante !»
une farce, une abominable farce. Mais il avait donné sa pitié à Nicole, une fois pour toutes. Pitié pour ce corps profané, pitié pour cette pauvre âme. Elle attendait le verdict, crispée, haletante. « Allons, viens, » murmura-t-il.